Le ministre de l'Intérieur mobilise les préfets pour faire face au mouvement annoncé Bloquons tout le 10 septembre. Bruno Retailleau appelle à la fermeté et à la rapidité des forces de l'ordre. Il y a 700 jours, le Hamas menait une attaque sans précédent contre l'État d'Israël. L'organisation terroriste islamiste retient 47 otages à Gaza. Une vidéo de deux d'entre eux a été diffusée cette nuit pour nous. En Calédonie, le haut-commissaire en visite communale hier à Dimbéa. L'État finance les travaux de deux écoles fortement dégradées lors des émeutes insurrectionnelles de mai 2024. Un jeune de 23 ans a écopé d'une peine de 140 heures de travail d'intérêt général. En juillet dernier, sur les réseaux sociaux, il avait menacé de mort le député Emmanuel Chibaouf. Le sport et le football, l'équipe de France lance aujourd'hui sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les Bleus affrontent l'Ukraine, c'est la deuxième mi-temps et la France mène 1-0. Et puis en Calédonie, de la voile au féminin, c'est ce week-end que se déroule la 14e édition de la No Woman No Sail à Nouméa. Ses équipages seront engagés sur le plan d'eau. Bonjour, très bon week-end et soyez les bienvenus dans ce journal à la une ce matin de l'actualité en métropole. À quoi doit-on s'attendre pour le mouvement Bloquons tout le 10 septembre prochain? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vient d'envoyer ses consignes au préfet pour parer à toute éventualité. Deux mots d'ordre du ministre à ses troupes, fermeté et rapidité. William Molinier pour Europe 1.
La stratégie de Beauvau, c'est de ne surtout pas laisser s'installer un rassemblement illégal autour duquel pourrait s'agréger l'ensemble du mouvement. Toute tentative de blocage doit être entravée en amont. En premier lieu, les points d'importance vitale. Il y en a environ 1400 sur l'ensemble du territoire. Gares, ports, aéroports, autoroutes, dépôts pétroliers, centrales électriques, nœuds logistiques. En cas de blocage de l'un de ces sites, l'ordre sera de le faire évacuer dans les plus brefs délais. Aucune dégradation de bâtiments publics ne saurait être tolérée, écrit le ministre de l'Intérieur. Côté justice aussi, on s'organise. Le parquet de Paris, par exemple, renforcera ses effectifs. Des audiences supplémentaires de comparution immédiate sont prévues pour être en mesure de juger rapidement les éventuels fauteurs de troubles. La date du 10 septembre fait effectivement l'objet d'une surveillance resserrée, mais en réalité, cela pourrait commencer dès lundi soir, jour du vote de confiance. Des appels à fêter le départ de François Bayrou circulent déjà dans les grandes villes. La physionomie du mouvement dépendra évidemment beaucoup de l'évolution de la situation politique du pays.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Au chapitre politique, le compte à rebours a donc commencé pour François Bayrou, qui engage, vous le savez, sa responsabilité et celle de son gouvernement lundi à l'Assemblée nationale. Une étape déjà enjambée par les oppositions, pour lesquelles c'est déjà l'après Bayrou qui vient de débuter. Un après Bayrou qui divise notamment à droite. Hier, Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale, a appelé à ne pas censurer a priori, sauf en cas de gouvernement et les filles. Prise de position démentie ces dernières heures par le reste du parti. Maïlène Trémollet.
Laurent Wauquiez plaidait pour ne pas censurer automatiquement quel que soit le prochain gouvernement, y compris s'il était socialiste. Prise de position considérée illisible pour bon nombre de députés et contredite avec force par Bruno Retailleau. Le président du parti rappelle que la droite a accepté de rentrer au gouvernement justement pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Mais quelques heures plus tard, Laurent Wauquiez persiste et signe. Avant de censurer, il veut pouvoir juger sur pièce.
La censure automatique, si c'est la France insoumise, si c'est d'autres configurations, ben on jugera en fonction de leur action. La décision que nous avons prise, et depuis longtemps, c'est de ne pas faire une censure a priori.
Des divergences qui s'ajoutent aux prises de parole contradictoires des poids lourds LR cette semaine et qui sèment la confusion chez les élus du parti à la veille du grand rassemblement de la droite ce week-end à Port-Marly. Un organisateur relativise entre ce sera glacial mais les militants ne le ressentiront pas. Ils viennent de toute la France pour voir Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui, selon nos informations, devrait répondre dans son discours à Laurent Wauquiez et fixer la ligne à suivre par la droite dans les prochains jours.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 67% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'en cas de chute très probable du gouvernement Bayrou, le 8 septembre, Emmanuel Macron ne dissoudra pas l'Assemblée nationale. Ils sont 33% à penser à l'inverse que le président de la République décidera d'une dissolution. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Nouvelle illustration de la flambée des actes antisémites en France, des militants pro-palestiniens ont été interpellés et placés en garde à vue à Nice après avoir tenté d'entrer en force dans un centre de la communauté juive. Des injures ont été proférées, une femme enceinte a été bousculée, trois personnes sont en garde à vue. Frédéric Michel pour Europe 1.
Injures, bousculades, si les faits restent à éclaircir, une ligne rouge inacceptable a été dépassée, dénoncent de nombreux élus et habitants de Nice. Il est 19h15, hier soir, une centaine de personnes assistent dans un centre Lubavitch du cœur de la ville à une réunion sur l'Alia, l'immigration en Israël, quand plusieurs militants pro-palestiniens viennent délibérément les provoquer, le rabbin Joseph Pinson.
Ils ont voulu perturber cette réunion avec les drapeaux. On a été choqués, parce que c'est la première fois que ça arrive, on est dans un quartier tranquille. Mais on sait très bien qu'on va surmonter cette épreuve. C'est vrai, une ligne rouge, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies.
Et ce midi, au centre Lubavitch, une délégation de l'église protestante évangéliste est venue apporter son soutien à la communauté juive, le pasteur Marie-Hélène Moulin.
Tout le monde doit se lever, parce qu'à vrai dire, ça concerne tout le monde. Ce qui arrive aux juifs pourrait arriver à n'importe qui. Nous voulons dire à la communauté juive qu'ils ont des amis, et nous serons là et nous serons avec vous.
Un geste fort qui prouve que les juifs de France ne sont pas seuls, le rabbin Joseph Pinson.
Le soutien de personnes qui ne sont pas de confession israélite montre que c'est quand même pas l'antisémitisme qui règne. Ce sont une minorité qu'on va faire taire.
L'enquête se poursuit. Elle a été confiée à la police judiciaire de Nice.
Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud. En bref, un adolescent de 17 ans présenté à un juge antiterroriste. Ce lycéen interpellé cette semaine dans la Sarthe est soupçonné d'avoir planifié des attentats contre des établissements scolaires, des ambassades, l'Élysée ou encore des sièges de médias. Le suspect aurait prêté allégeance à l'État islamique. À l'étranger, le gouvernement libanais va examiner un plan visant à désarmer le Hezbollah, un plan auquel le mouvement pro-iranien s'oppose, accusant le Liban de faire le jeu d'Israël et des États-Unis. Le mois dernier, sous la forte pression des États-Unis et la crainte d'une intensification des bombardements israéliens au Liban, le gouvernement libanais avait ordonné à l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah d'ici à la fin de l'année. Il y a 700 jours, le Hamas menait une attaque sans précédent contre l'État d'Israël. Cela fait également 700 jours que l'organisation terroriste islamiste retient 47 otages à Gaza. 25 seraient décédés selon l'armée israélienne. Cette nuit pour nous, Emmanuel Macron, qui s'apprête à reconnaître un État de Palestine, a appelé sur X à la libération des otages. La barbarie et la souffrance n'ont que trop duré, écrit le chef de l'État. C'est dans ce contexte que le Hamas a diffusé une vidéo de deux otages supposément en vie. Écoutez le colonel Olivier Rafovitch, c'est le porte-parole de l'armée israélienne.
Ce sont évidemment des preuves de vie de deux otages, des 20 vivants aux mains du Hamas. Ça rentre malheureusement dans la continuation de la guerre de terrorisme psychologique que mène cette organisation assassine, génocidaire qui est le Hamas, qui depuis 700 jours maintenant détient ses otages. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a une opération israélienne où nous sommes à la veille d'une opération importante dans la bande de Gaza, le Hamas utilise la vie de nos otages pour faire pression sur Israël et sur le monde. Mais ce chantage odieux à la vie de nos otages ne marche pas. Nous voulons, comme vous le savez, pour que la guerre s'arrête, la libération de tous les otages et que le Hamas soit désarmé.
Le colonel Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne. Il est 7h et pratiquement 9 minutes. Nous allons marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en Calédonie.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et 7h10 sur RB, la suite du journal avec Lionel Sabour.
C'est le député Nicolas Metzoff qui était hier midi l'invité du magazine Transparence, interrogé sur la situation politique nationale et ses conséquences pour la Nouvelle-Calédonie. Il a confirmé qu'il voterait la confiance, mais il ne se fait guère d'illusions. Il pense que lundi, le gouvernement Bayrou va tomber et qu'il va y avoir un nouveau Premier ministre. Dans ce cas-là, il relève que le projet de loi organique de report des élections provinciales pourrait passer dans les prochaines semaines, mais il rappelle que la situation serait très différente en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Une interview du député Nicolas Metzdorf a retrouvé en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée dimanche soir en intégralité, juste après notre édition de 17h45. Le club politique de Radio Rythme Bleu sera lui aussi rediffusé ce matin à partir de 11h. Au sommaire, la nomination du nouveau président du Sénat coutumier et son positionnement. Les consultants du club ont également évoqué la situation du secteur aérien et la chute historique de la fréquentation touristique. Ils ont aussi abordé la situation politique nationale avec les scénarios possibles et les conséquences que cela peut avoir, notamment sur la Nouvelle-Calédonie. Un club politique est disponible en audio sur le site de RRB. Dans l'actualité judiciaire, le procureur de la République, Yves Dupas, qui indique dans un communiqué que, dans le cadre d'une enquête diligentée par la brigade de recherche de Nouméa, le parquet a présenté hier, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'auteur d'un délit de menace de mort à l'encontre du député Emmanuel Tchibaou. L'auteur présumé, âgé de 23 ans et résident à la tribu de Nakieti à Canala, avait publié entre le 1er et le 22 juillet dernier un message sur son compte Facebook comprenant des propos sans équivoque et que je cite « Emmanuel Tchibaou, bourre-toi avec tes discours à deux balles à la radio, tête de pine, tu mérites une bonne balle, toi ». Lors de sa garde à vue, l'auteur présumé a reconnu avoir diffusé cette menace de mort, précisant qu'il avait réagi par la colère après la signature notamment de l'accord de Bougival. Sans antécédent judiciaire, le prévenu a écopé d'une peine de 140 heures de travail d'intérêt général, assortie d'une peine de 3 mois d'emprisonnement en cas d'inexécution du travail. Le procureur de la République, Yves Dupas, qui indique par ailleurs dans un autre communiqué que le parquet a ouvert une information judiciaire le 31 juillet 2024 suite au décès d'une personne incarcérée au centre pénitentiaire de Nouméa. Dans cette procédure, il s'agit d'une personne détenue décédée le 20 mai 2024 au centre hospitalier du Médipôle, quelques heures après son admission dans l'établissement. L'homme s'était plaint d'une douleur à la jambe qui avait enflé. L'autopsie réalisée le 23 mai 2024 n'avait pas permis de déterminer les causes du décès. Le procureur de la République indique dans ce communiqué diffusé hier après-midi que dans le cadre de cette information judiciaire, des investigations médico-légales se poursuivent sous l'autorité du magistrat instructeur afin de déterminer les causes du décès de cette personne et les conditions de sa prise en charge médicale. Une visite sur le terrain pour le haut-commissaire Jacques Billan. Il s'est rendu hier à Dimbéa, accompagné notamment de la commissaire déléguée pour la province sud, Catherine Merckx-Michel-Junexky.
Une visite qui a débuté à l'hôtel de ville de Dimbéa par une réunion avec des élus municipaux et le maire, Johan Lecourieux. Après cet entretien, le haut-commissaire s'est rendu dans les écoles Louise de Grélan et Jacques Minguet, deux établissements qui ont subi des dégradations importantes pendant la période insurrectionnelle de 2024. Des travaux de rénovation financés par l'État à hauteur de 199 millions de francs ont été entamés, toujours dans la continuité de la reconstruction du territoire, souligne le haut-commissaire Jacques Billan.
L'appui à la reconstruction des bâtiments publics qui ont été détruits pendant les événements de 2024 sont une priorité des collectivités. C'est aussi une priorité de l'État, puisque la décision a été prise d'accompagner ces reconstructions ou ces réhabilitations à hauteur de 80% pour tous les établissements publics et d'aller à 100% d'accompagnement pour les écoles. Les marchés ont été lancés par la mairie et aujourd'hui, donc, on est en phase de reconstruction de l'école avec un projet d'ouverture de l'école en avril 2026. C'était vraiment une nécessité et une attente forte de la part des parents et bien sûr des élèves.
Dans l'école élémentaire Jacques Minguet, ce sont les salles de classe et la cantine qui avaient été incendiées. Les travaux devraient permettre une rentrée des enfants en 2026. Mais pour l'école Louise de Gréland, le chantier sera un peu plus long, explique le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux.
Il y a un décalage parce que Minguet sera opérationnel à la rentrée scolaire et de Gréland, on va réunir l'école maternelle et élémentaire au même endroit, vrai groupe scolaire. Et donc il y aura un décalage dans la rentrée sur site. Mais les enfants seront en préfiguration dans l'ensemble des écoles de la commune.
Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est parce que l'école maternelle était trop endommagée ?
Déjà, l'école maternelle était très endommagée, puis c'est aussi, on tient compte de l'évolution des effectifs dans le quartier. Et donc, il suffit d'adapter et on préfère que les enfants fassent leur scolarité dans le même établissement, que ce soit en maternelle ou en élémentaire.
L'école maternelle Jacarandas fera donc partie désormais du groupe scolaire de Gréland qui accueillera 10 classes d'élémentaire et 3 classes de maternelle. Le chantier vient tout juste de débuter. Avant de penser à une ouverture, il faudra encore transformer 3 classes en section de maternelle, rénover complètement les salles, la cantine, les salles informatiques, la bibliothèque, les bureaux, mais aussi acquérir du mobilier. Le commissaire s'est ensuite rendu à la station d'épuration de la ville, puis dans différents quartiers de la commune comme à Pogoti, avant de terminer sa visite sur la promenade Jules Renard et à la mairie du Nord.
On parle de plus en plus du conflit entre le port autonome et la chambre des métiers de l'artisanat. Le dossier fait d'ailleurs l'objet de recours devant la justice et la présidente de la CMA a tenu à apporter quelques précisions, Michael.
Cela fait 40 ans que la chambre des métiers de l'artisanat est installée à Nouville, sur un terrain de la Nouvelle-Calédonie, dont la gestion est assurée par le port autonome. Les bâtiments de la Chambre des métiers de l'artisanat. Ils sont installés depuis 35 ans, construits sur fonds propres de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le litige porte sur le loyer réclamé par le port à la CMA. Il est apparu à la fin août, c'est-à-dire l'occupation temporaire du terrain. Il est apparu à la fin de l'AOT, c'est-à-dire l'occupation temporaire du terrain par la Chambre des métiers et de l'artisanat, explique sa présidente Elisabeth Rivière.
Elle avait une occupation temporaire pour ce terrain de 30 ans, ce qui expliquait qu'on avait un loyer qui n'était pas important puisqu'il était basé sur la location du terrain et non pas sur les constructions puisque ces constructions nous appartenaient. Donc à l'issue de cette AOT, le port a récupéré l'ensemble des bâtiments, en partie dans ses papiers. C'est la chambre de métier qui, depuis 2016, à la fin de cette AOT, entretient l'ensemble de ces bâtiments, donc paye les réparations, qui sont normalement les réparations que devrait effectuer le port. Et de plus, la CMA paye les impôts fonciers pour ce terrain.
Le port autonome réclame devant le tribunal administratif le versement de loyer que la chambre de métier de l'artisanat n'aurait pas effectué. Mais ce n'est pas le fond du dossier pour Elisabeth Rivière.
Nous ne contestons pas qu'il peut y avoir des loyers à régler, mais ce que nous contestons, c'est l'augmentation de ces loyers de plus de 2000%, plus de 2000%, et pour un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui est là pour accompagner les artisans, pour les promouvoir lors de salons, lors de diverses manifestations, c'est tout à fait inacceptable. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, pour faire du business, comme ça a été dit par le directeur du port. Nous sommes bien là pour rendre un service public aux artisans. Et ce pourquoi nous ne voulions pas payer un loyer aussi important, parce que nous estimons que nous ne devons pas dépenser un loyer qui aujourd'hui s'élève à 4,5 millions de francs par mois. Donc nous ne pouvons pas rester dans cette situation et nous préférons utiliser cet argent pour accompagner l'ensemble de nos artisans. Si ça, ce n'est pas de la bonne gestion, je ne sais pas ce que c'est que de la bonne gestion.
La présidente de la CMA est aussi maire du Mont-d'Or et hier matin, dans Vous avez un avis, une auditrice s'est interrogée sur la gestion de la commune alors qu'elle estime que la gestion de la chambre de métier et de l'artisanat n'est pas correcte, ce que dément Elisabeth Rivière.
La gestion de la chambre de métier et de l'artisanat est très saine. Nous ne sommes pas des néophytes dans la gestion d'institutions. Nous savons gérer des institutions, mais malheureusement, quand nous reprenons des mandats, il y a des sujets qui restent et qui traînent. C'est ce qui se passe à la Chambre des métiers. Ce sujet date de 2014. Depuis mon arrivée en 2022 à la CMA, c'est un dossier que je traite avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de rigueur. L'ensemble des autres élus de la Chambre, la majorité ou l'opposition, connaissent très bien ce dossier. Nous sommes bien sûr suivis dans nos comptes par un commissaire aux comptes qui vérifie chaque année que l'on a bien tenu compte de ce litige avec le port, et dans nos financements est inscrite une ligne qui permet, entre autres, de pouvoir abonder ce litige financier.
Une partie du litige sur les loyers a été portée devant le tribunal administratif par le port autonome. Il a été étudié en audience cette semaine et le tribunal rendra sa décision le 25 septembre.
L'actualité aérienne et Air Canada qui annonce de nouvelles modifications d'horaires pour les vols SB500 et SB501. Le vol SB500 nommé à Bangkok-Paris qui était prévu à 1h30 la nuit dernière partira finalement de Tontouta à 14h25 cet après-midi. Le vol SB501 Paris-Bangkok-Nouméa atterrira lui lundi soir à 19h35. Les passagers concernés par ces modifications ont été informés par la compagnie. Air Canada annonce que, et je cite, « ce recalage de la rotation entre Nouméa et Paris via Bangkok vient clore l'aléa technique de ces derniers jours ». Fin de citation. Le CFA de la CCI ouvre ses portes ce matin, un temps fort qui marque une étape de la période d'inscription à la rentrée 2026. Futurs étudiants, lycéens et parents sont invités à découvrir les formations, les programmes et à rencontrer la direction, les équipes pédagogiques et les étudiants. David Leclerc, directeur des écoles de la CCI.
On propose cette matinée porte ouverte à tous les candidats ou toutes les personnes qui envisagent de faire de l'alternance, puisque nous on a un centre de formation pour l'alternance, pour que les alternants puissent présenter eux-mêmes leur formation et les métiers qui en découlent. C'est l'occasion pour les candidats ou les personnes qui sont intéressées de découvrir notre mode de fonctionnement, les formations elles-mêmes, rencontrer les alternants, rencontrer des anciens, des alumni également, pour savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils se sont insérés professionnellement. Ça, c'est important de voir un petit peu comment ça se passe. Rencontrer des formateurs également. Cette matinée, comme toutes nos formations par alternance, que ce soit de niveau bac plus 2, voire bac plus 3, sont ouvertes à toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, et ça sans limite d'âge, c'est-à-dire que vous ayez 25, 30, 35, voire plus, c'est tout à fait possible d'intégrer une formation par alternance pour l'année prochaine.
Et les portes ouvertes du CFA de la CCI, c'est donc ce matin de 8h à 13h. L'agenda culturel à présent avec le sport aquatique qui sera à l'honneur aujourd'hui dans les piscines municipales de Nouméa, Michael Juneski.
De 8h à 13h au programme, waterpolo, natation, apnée, natation synchronisée, aquapalme, hockey subaquatique, aquagym, une journée découverte de toutes ces activités organisées à la piscine du Wentoro. Pour l'occasion, l'entrée est gratuite dans les piscines du Wentoro et au centre aquatique de Magenta. Et puis, Dimbéa vivra au rythme du 10e salon de nature, maison et déco qui revient au parc Fayard. Les visiteurs sont attendus aujourd'hui et demain de 9h à 18h.
En brousse, la 11e édition de la fête agricole de Pointe-Boute animera aujourd'hui l'ancien hippodrome de la commune.
Avant le rodéo en fin de journée, il y aura une expo vente de têtes de bétail, des jeux équestres, des démonstrations épiques, des concerts, de la danse, différents concours, concours de mangeurs de maïs, de cuisine ou d'épluchage de pommes de terre. La 11e fête agricole de Pointe-Boute, c'est de 8h à 19h sur l'ancien hippodrome donc de la commune.
L'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2025, c'est ce soir au Méridien, un événement très attendu, alors que l'édition 2024 avait dû être annulée en raison de la crise insurrectionnelle.
L'ambition est de renouer avec les plus belles heures de ce rendez-vous affectionné par une large partie de la population. 8 candidates seront sur la scène du Méridien pour tenter de décrocher le diadème tant convoité et succéder à Emma Grousset, qui est restée notre ambassadrice de beauté durant 2 ans. Karine Richet-Garaguin, directrice artistique du spectacle de l'élection, dont la thématique est « Nature, elle ».
Ce thème a été choisi par le comité et quand ils m'ont convoqué, ça m'a tout de suite inspirée. On travaille sur ce thème en collaboration avec ma fille Laura Ribeiro, donc sur toute la partie artistique et chorégraphique. Et alors tout de suite, moi dans Nature elle, je retiens femme. Donc on a essayé de coller le plus possible au thème dans le temps qui nous était imparti et je trouve que c'est très beau. Donc c'est beaucoup dans la sobriété. On travaille également avec Bruno Fortin sur les images, les tenues qu'elles vont utiliser. Donc, c'est très dans la sobriété. Et c'est ce qui, je trouve, correspond bien à cette élection, à cette période qu'on est en train de vivre.
Cette année, le concours se déroulera avec une invitée de prestige, Miss France 2023, ancienne Miss Guadeloupe, Indira Ampio. La grande gagnante partira représenter la Calédonie lors du concours Miss France en décembre prochain.
Et Mickaël, vous gardez la main avec le Conservatoire des Arts qui présentera ce soir à 18h son spectacle Île de Lumière.
Il s'agit du spectacle Pachai, entre jazz, world music et rock, à travers des compositions originales sous la direction artistique de Paul Dubois, professeur de guitare au Conservatoire, auteur et compositeur. Le public est attendu dès 18h au Conservatoire des Arts.
Et puis le grand vide-grenier de la ville de Nouméa envahira le dimanche, demain, la place des Cocotiers. Comme chaque premier dimanche du mois, de 7h à midi, plus de 250 stands seront installés au kiosque à musique. Et puis à Boulari, une fête de l'arbre organisée de 9h à 15h. Ce sera demain au marché municipal avec des dons, des ventes, des échanges d'arbres, en plus du marché de produits locaux. 7h24, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
La ville de Nouméa vous informe de travaux de réfection de la chaussée sur la route du Trianon.
Ces travaux auront lieu de nuit du 18 août au 12 septembre, par phase du lundi au jeudi soir de 20h à 5h du matin. Des fermetures partielles seront mises en place au fur et à mesure de l'avancée du chantier entre le magasin Florence et le carrefour de Michel-Ange.
Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone. Des déviations seront mises en place, mais l'accès pour les riverains et les piétons sera maintenu.
Pour votre sécurité, merci de respecter la signalisation de chantier. Plus d'infos sur nouméa.nc.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et 7h25, votre actualité sportive dans Info Weekend avec Lionel Sabour.
Et bon, on va commencer avec du football et l'équipe de France qui lance aujourd'hui sa campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les Bleus qui affrontent l'Ukraine, Mickaël.
Oui, l'équipe de France qui veut débuter cette campagne de la meilleure des manières avec un effectif mené par Mbappé. Les tricolores ont ouvert le score grâce à Mickaël Olise à la 10e minute de jeu. Kylian Mbappé, le capitaine, a doublé la mise à la 82e minute. Avantage donc 2-0 pour les joueurs de Didier Deschamps après 84 minutes de jeu, la rencontre qui va se terminer d'ici quelques minutes dans le groupe D. On soulignera que le groupe de la France, bien sûr, l'Islande retrouve également aujourd'hui l'Azerbaïdjan. Les Islandais menaient 5-0 désormais, également à l'approche de la fin du match.
Le sport collectif toujours avec du rugby. Et c'est ce soir la reprise du top 14. Youpi, le championnat de France élite de rugby.
Première rencontre des 22h, retour des meilleurs clubs nationaux dans la compétition. Le Stade français affrontera un promu, Montauban, puis à minuit, un derby Perpignan qui accueillera Bayonne. À 2h du matin en simultané, Castres face à la section paloise. Lyon recevra le Racing 92. À 4h, Montpellier accueillera Toulouse. À 6h, demain, La Rochelle sera en déplacement sur le terrain de l'Union Bordeaux-Bègles. Lundi matin, déjà, un beau duel. L'AS Clermont retrouvera le Stade toulousain.
Et il y a du rugby aussi dans notre hémisphère avec la 3e journée du Rugby Championship. Cet après-midi, l'Australie recevra l'Argentine dès 15h30. À 18h, il y aura un choc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Pour le moment, les 4 sélections comptent une victoire chacune. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La F1 avec ce week-end, le Grand Prix d'Italie qui est au programme, Mickaël.
Et lors des essais libres à Monza, c'est Lando Norris qui s'est montré le plus rapide, meilleur chrono pour le pilote McLaren devant la Ferrari de Charles Leclerc, alors que les deux monoplaces de la Scuderia avaient déjà affiché leurs ambitions en terminant en haut du tableau à l'issue de la première séance. C'est plutôt positif selon Frédéric Vasseur, team manager de la Ferrari.
Tous approchent le week-end avec des stratégies différentes, avec des approches différentes en termes d'essence, de mode moteur et tout, et il faut rester focus sur nous, continuer à faire améliorer la voiture et améliorer le driving des pilotes. Et voilà, on est dans un mood positif, donc c'est plutôt positif, mais sans s'enflammer.
Et notez que Carlos Sainz Jr. a signé le 3e temps de la 2e séance devant Oscar Piastri et Lewis Hamilton qui complètent le top 6. Côté français, Isaac Hadjar s'est classé 11e, Esteban Ocon 16e, Pierre Gasly 18e. Qualification au programme ce soir, le Grand Prix demain soir, dès minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport mécanique encore et la MotoGP, 15e rendez-vous de la saison en Espagne.
Le Grand Prix de Catalogne, un Sud-Africain aux avant-postes après les premiers tours de piste. Brad Binder sur KTM. Chez les tricolores, Juan Zarco a terminé 8e, directement qualifié pour la Q2 malgré une chute. Fabio Quartararo signe le 11e temps. Qualification et sprint race ce soir. La course demain soir dès 23h.
Et toujours en Espagne du cyclisme, Jonas Vingegaard reste leader de la Vuelta à l'issue de la 13e étape.
Le Danois toujours avec le maillot de leader. La victoire sur cette 13e journée de course a été remportée par le Portugais Jean Almeida au sprint devant le maillot rouge. L'Australien Jay Dedless est classé 3e. Au classement général, Vingegaard compte 46 secondes d'avance sur le vainqueur de l'étape du jour.
Et quelques mots de tennis, on joue les demi-finales du tableau messieurs à l'US Open.
Une rencontre en cours entre le numéro 2 à l'ATP et l'ancien patron du tennis mondial Carlos Alcaraz qui fait face actuellement à Novak Djokovic pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera l'Italien Yannick Sinner au Canadien Félix Auger-Aliassime.
Sur le territoire à présent, on parle football. Après les demi-finales de la Coupe de Calédonie, c'était le week-end dernier. Place au quart de finale, cette fois-ci de la Super League.
On connaît déjà le premier qualifié pour les demi-finales, le CA Saint-Louis, vainqueur au tirs au but d'Horizon Patho lors du barrage. À Saint-Louis qui attend de connaître son futur adversaire, ce sera soit Tigasport, soit l'AS Cougnier qui s'affrontent demain dès midi au stade Noumadélé. Avant cela, aujourd'hui à 14h, l'AS Lossi défiera Gaïcha. À 17h30, Yengen Sport sera opposé à l'AS Magenta.
Et du cricket aussi avec la suite des phases finales du championnat territorial après la victoire d'Ouvéa la semaine dernière chez les Dames. Place ce week-end aux Hommes. Avec à 8h les demi-finales aujourd'hui qui verront une confrontation entre Ouvéa et Kirikitch. Et puis le vainqueur sera opposé en finale demain à 8h à l'AS Berumas. Et puis en mer, Mickaël, le rendez-vous est donné pour la No Woman No Sail.
14e édition de cet événement organisé par le Cercle Nautique Calédonien, l'association d'œuvres des filles et le Catamaran Club de Nouméa. Céline Cantermark est membre de l'organisation.
C'est un événement sportif, c'est une vraie régate. Avec 80 participantes, donc c'est énorme, on est à la 14e édition cette année. On a 16 équipages en tout. Du challenge, c'est carrément ce qu'on attend et on sait que les filles, il y a des filles de très très haut niveau, donc on est très très fiers qu'elles participent à cet événement cette année. On va voir qui va gagner cette année.
Et tout au long du week-end, des régates en J70 et Twin 415 sont donc prévus, des équipages 100% féminins dans une belle ambiance. Également au programme, l'aquathlon au Mont d'Or, au complexe sportif et culturel Boeva de Boulary pour les jeunes. Ce samedi également, la 8e réunion hippique de la saison, c'est le Grand Prix de la Province Nord, ça se passera à Boulou-Paris. Et enfin, du badminton à Païta, les badistes qui ont rendez-vous tout le week-end pour le tournoi Extreme Païta, un tournoi amical en double.
Eh bien, nous allons terminer ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Jennifer, qu'est-ce que ça dit pour aujourd'hui ?
Eh bien, ça souffle, voilà. Ça souffle. Vigilance jaune, vent violent cet après-midi sur la pointe nord-ouest de Kaalagomen à Belep, sur le sud-est en sortie de vallée de Wailou à Yaté et sur l'Ifou et Marais pour un vent de secteur sud qui se renforce. 25 à 30 nœuds Lionel avec des rafales, 35 à 40 nœuds. Ce matin sur la côte est et l'extrême nord, le soleil dominera. Au Loyauté, les nuages gagneront du terrain et quelques bonnes averses se déclencheront. Ailleurs, les nuages seront parfois nombreux avec de rares averses qui remonteront encore sur le sud-ouest. Au Loyauté, il est souvent faible ce vent, mais se renforce en fin de matinée. Et voilà, Lionel. Voilà.
Merci,
il faut juste pas s'envoler, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Voilà. Merci pour ce magnifique journal, messieurs.
Mais je vous en prie. On vous souhaite une belle matinée sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. On se retrouve à 8h pour d'autres infos.
Pareillement. À 8h.